Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, comme vous savez, on va recevoir tout à l'heure trois collègues préhistoriens qui vont venir vous rencontrer pour vous montrer comment les hominidés anciens taillaient la pierre et comment ils fabriquaient des outils. Ça se passera là, à ma gauche, donc à votre droite. Rassurez-vous, on a prévu une caméra qui fera que vous aurez les images sur l'écran et en grand. Ça sera ce matin, cet après-midi, notre collègue Chris Bird fera sa troisième et avant-dernière conférence sur l'origine des singes anthropoïdes. Nous sommes des anthropoïdes. Mais il se place dans un temps qui est un peu loin de l'histoire humaine, c'est le tout début, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 40 millions d'années. Alors que nous, notre histoire, vous savez qu'elle commence seulement autour de 8 millions d'années, peut-être 9, mais pas plus. Bien, voilà le programme. En ce qui concerne la taille, là, je demanderai aux collègues qui se mettent le plus loin possible du bord parce que, forcément, vous l'avez remarqué ce matin avant de partir, de quitter la maison, quand vous avez taillé votre dernier silex, vous avez remarqué que ça faisait des éclats qui volaient dans tous les sens et vous avez été obligé de balayer ou de passer l'aspirateur avant de partir. Il en sera de même là et je ne voudrais pas d'accident, quoi. Hein. Justement, puisque je parle environnement, c'est d'environnement que nous allons continuer à parler. Forcément, dans ces environnements, comme notre histoire a été pendant si longtemps, pratiquement 6 millions d'années pour 8 millions d'années d'histoire, 6 millions d'années en Afrique. Et donc, faire de l'environnement des hominidés, c'est déjà, pour une grande partie de ces environnements, faire de l'environnement en Afrique. Et vous avez vu la dernière fois mon collègue Emmanuel Farah vous a montré quelles sont les méthodes qui permettent d'essayer de reconstituer ou d'avoir une assez bonne idée de ces environnements. Ces environnements, ils sont liés forcément à l'évolution du climat, hein, on en entend parler quotidiennement. Vous avez des variations qui sont des variations qui se font à la fois dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, et c'est là ce qui préoccupe notre société, vous avez l'impact des sociétés humaines. Et cet impact, c'est clair, il a été grandissant. À l'époque de Toumaï, l'impact des hominidés sur l'environnement était forcément relativement, voire complètement négligeable. Alors, c'est intéressant parce que il y a un lien étroit entre notre évolution et l'environnement. Si on se pose, par exemple, la question, cette dichotomie entre les chimpanzés et nous, il y a 8 millions d'années, bien probablement, cette dichotomie, elle s'est faite parce qu'à ce moment-là, sont apparues de nouvelles niches écologiques. À ce moment-là, sont apparus de nouveaux milieux qui n'étaient pas occupés. Nos ancêtres, à eux, les chimpanzés, et à nous, les humains, vivaient dans la forêt dense, humide, lieu idéal quand vous mangez des fruits mûrs et des feuilles tendres. Vous avez à manger tout le temps, toute l'année. Il n'y a pas de mauvaise saison. Eh bien, on le sait par ailleurs, on en reparlera, sur le plan climatique, à cette époque-là, on assiste à des altérations climatiques successives qui vont vers plus froid, plus sec. Je vous montrerai des courbes tout à l'heure et vous verrez que globalement, on va vers plus froid, plus sec. Attention, n'imaginez surtout pas que cette tendance plus froid, plus sec est une tendance linéaire du tout, du tout. On y va avec des périodes plus chaudes, plus froides, plus chaudes, plus froides. Il y a des oscillations climatiques. Eh bien, sûrement que nous, notre famille, au départ, s'est adaptée à un environnement boisé, certes, mais pas une forêt dense, mais surtout un environnement boisé où vous aviez une bonne et une mauvaise saison. C'est-à-dire l'apparition d'une saisonnalité, au moins au sens de la nourriture. Bonne saison pour la nourriture, mauvaise saison pour la nourriture. Je vous rappelle que quand vous êtes dans la forêt dense, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise saison. Vous êtes toujours en bonne saison. Il y a une saison unique. Mon collègue vous a montré la semaine dernière, vous a dit, bon, pour faire ça, on applique le principe de l'actualisme. Effectivement, pour essayer d'interpréter les données qu'on a, que ce soit les flores ou les faunes, on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, il y a des fois où c'est relativement facile, il y a d'autres fois où c'est plus hasardeux. Pourquoi ? Ben, par exemple, vous pouvez avoir des espèces animales qui ont disparu, qui n'existent plus de nos jours. Donc, vous êtes obligé de faire des approximations. Il est évident aussi que plus vous remontez dans le temps, et plus vos approximations sont grandes. Alors, pour combler ces problèmes, on fait des approches multiples. C'est-à-dire qu'on va chercher des données dans des domaines très différents et on croise ces données. Finalement, on fait une approche qui est plurimultidisciplinaire. Regardez, je vous parlais de courbes climatiques. Regardez, on parle là de la fin de l'ère secondaire, Crétacé. Ici, là, c'est l'époque des dinosaures. Ils vont disparaître là. À 65 millions d'années. Les plus anciens anthropoïdes connus sont dans l'Éocène, là. Et les plus anciens hominidés connus sont là, à 7 millions d'années. Eh bien, regardez. On va ici vers plus froid, ici vers plus chaud. Quand je vous dis que globalement, on a été de plus chaud vers plus froid, c'est bien ce qui correspond. Mais regardez, hein, on n'y va pas de manière rectilinéaire. On y va avec des oscillations climatiques importantes. Ceci montre, à l'évidence, que quand vous regardez les climats sur une longue période de temps, la surprise serait de trouver une longue période où vous n'avez pas de changement. C'est une suite de changements permanents. Et bien évidemment, ces changements climatiques sont un des éléments moteurs de l'évolution. Il y a, à ce propos, de multiples exemples. Si vous prenez globalement l'histoire de la Terre, cette histoire, c'est pas ça, c'est les 65 derniers millions d'années, mais il y a plus de 4 milliards d'années d'évolution. Cette histoire est ponctuée par des oscillations des océans et par une suite de régression marine et de transgression marine. Quand vous êtes en période de régression marine, eh bien vous avez tout le plateau continental jusqu'à peu près 300 mètres qui est exondé. C'est-à-dire que les continents deviennent plus grands. Mais dans cette partie-là, si vous prenez les faunes marines, c'est là qu'il y a plus de 90% de la faune qui vit. Quand c'est exondé, cette faune, il faut soit qu'elle s'adapte à des conditions plus profondes, soit elle disparaît. Eh bien, ces hécatombes sont suivies par des radiations. La vie explose. C'est ce qui s'est passé ici, il y a 65 millions d'années. Il y a 65 millions d'années pour les causes dont vous avez entendu parler, chute d'un astéroïde, épanchement volcanique, les trappes du Deccan, peut-être aussi justement des problèmes de régression, transgression, sûrement des causes multiples qui sont venues s'ajouter les unes aux autres. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Les dinosaures disparaissent. Ces dinosaures, ils occupaient sur notre planète un bon nombre de niches écologiques. Ils disparaissent, la Terre devient une immense place vide. Eh bien, ce sont les mammifères qui vont faire une radiation importante et occuper tous ces milieux laissés vacants. Si les dinosaures n'étaient pas disparus, attention, hein, c'est plus de la science, là, ce que je fais. C'est de la science-fiction. Peut-être ne serait-on pas là ce matin pour en parler. Ou peut-être que celles et ceux qui seraient là ce matin seraient différents de nous. Vous imaginez, dans l'amphithéâtre Marguerite des Navarres, une réunion de dinosaures. Enfin, il semblerait, pour lire la presse ou écouter, qu'on en a gardé encore quelques-uns. Trêve de plaisanterie. Voyez, on passe du plus chaud au plus froid, mais avec de nombreuses oscillations. Ça ne se fait pas de manière progressive. Et ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Que va-t-on utiliser pour reconstruire ces paléo-environnements ? Mais il va falloir, là encore, excusez-moi, aller sur le terrain. Il va falloir, là encore, récolter les données, faire ce travail de fourmi qui consiste à observer, à prélever, à noter, un vrai travail de naturaliste. Notre histoire, à nous les humains, c'est une histoire de naturaliste. Ce sont les sciences de la nature, les sciences d'observation. Et je crois que c'est important parce que trop souvent, dans nos sociétés actuelles, on a l'impression que les sciences d'observation, c'est quelque chose qui est désuet. Je ne suis pas sûr, je suis même certain du contraire. Alors on observe, Alors regardez, vous avez deux images là qui sont prises au Tchad à deux endroits différents. À gauche ici, regardez, c'est la mine oblique. Eh bien ça, typiquement, ce sont des niveaux désertiques dunaires. On peut observer sur des dunes actuelles les mêmes choses, exactement les mêmes choses. Eh bien là, sur cette coupe, on est en train de regarder un paléo-désert. On est dans le Sahara actuel, et là, on regarde un paléo-désert. Alors, vous imaginez l'état actuel de nos connaissances. Quand on a commencé à travailler dans cette région du globe, l'observation la plus ancienne faite au niveau du désert du Sahara, c'était de l'ordre de 200 000 ans. C'est-à-dire qu'on avait observé in situ des niveaux qui pouvaient être datés à 200 000 ans. C'est-à-dire que le Sahara avait au moins 200 000 ans. Eh bien, l'image que vous êtes en train de regarder montre que le Sahara a au moins plus de 7 millions d'années. Vous vous rendez compte la différence d'échelle? Si vous n'allez pas sur le terrain, ça, vous ne le saurez pas. Alors, par opposition, juste à côté, vous avez des diatomites. Comme leur nom l'indique, ce sont des roches qui sont formées essentiellement par ces algues unicellulaires qui s'appellent les diatomées. Et les diatomées, on les trouve où? Et ces diatomites, elles se forment où? Eh bien, au fond des lacs. Au fond des lacs. Et d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas une surprise, sur cette diatomite, vous avez là le reste ou les restes d'un poisson fossile. Le crâne est là, vous voyez la colonne vertébrale avec les épines, là. La queue est par là, le crâne est ici. Eh bien ça, c'est la preuve de l'existence d'un lac. C'est la preuve de l'existence d'un lac. Ces deux images sont prises dans la même région, une région actuellement qui est désertique. Et vous pouvez multiplier ces observations. Un autre apport va être fait à partir des faunes, à partir des fossiles. Il est évident que lorsque vous trouvez des hippopotames, par exemple, ils ne fréquentent pas les mêmes milieux que quand vous trouvez des antilopes qui mangent de l'herbe. Donc, ces assemblages fauniques, selon leur constitution, vont vous permettre d'avoir une idée de plus en plus précise quant à l'environnement d'où ils viennent. Je vous ai déjà montré cette image simple. Dans une faune et dans les faunes là, on a des animaux de type aquatique, des poissons. Ça, c'est un cygne. Et ça, c'est une mâchoire de crocodile, mais regardez, les dents qui étaient là, ce sont leurs alvéoles qui sont là. Bien, ces alvéoles, elles sont festonnées, et ça indique que ce crocodile avait un régime ichtyophage, c'est-à-dire qu'il mangeait des poissons, pas étonnant. Et beaucoup de poissons. Donc il y a de l'eau. En bordure de cette eau ou dans l'eau, eh bien, vous trouvez des gros mammifères potamophiles, comme par exemple les hippopotames ou les anthracotérides dont on a déjà parlé, qui représentent le groupe frère des hippopotames. À côté, vous avez des petits singes, vous avez des gros sangliers, vous avez un cousin des éléphants. Tous ces animaux-là vivent dans la forêt. Vous avez de la forêt. Enfin, vous avez là un cheval à trois doigts, un cheval tridactyle, une antilope, vous avez là un lièvre. Ces animaux vivent dans la prairie. Ce que je viens de vous décrire, c'est une mosaïque de paysages qui va de l'eau à la prairie en passant par la forêt. Regardez, si on essaie sur un site donné, en l'occurrence, là, nous sommes dans le site qui a livré Toumaï et ses frères. C'est une analyse simpliste, hein, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais qui donne une assez bonne idée. Regardez, qu'est-ce qui... Alors, on a calculé, oui, c'est important de vous dire ça, comment a-t-on calculé le nombre d'individus? Alors, pour faire très simple, on a pris le nombre de mâchoires inférieures. Ça donne un ordre d'idée. On peut affiner ce calcul. Eh bien, regardez, les plus importants sont les jaunes, c'est-à-dire les bovidés. Mais tout le reste réuni, les jaunes à eux seuls font un peu plus de la moitié. Et regardez les rouges qui sont les carnivores. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'ongulés, il y a beaucoup de proies. Hein ? Et donc, à partir d'éléments aussi simples que cela, là, c'est un traitement ultra simpliste, eh bien, vous pouvez avoir une idée très précise. Avec la composition phonique des milieux qui constituaient l'environnement. Pour faire un retour en arrière, regardez sur cette coupe. Tout ce qui est blanc là, avec ces lamines ici, eh bien, c'est la partie désertique que je vous ai montrée sur l'image d'avant. Ça, c'est le désert. Sur ce désert arrive de l'eau qui transgresse. C'est tout ça. Ce qui est appelé ici anthracotéride unit. C'est la dans ce niveau-là qu'on a trouvé Toumaï et ses frères, et toute la faune. Vous avez l'eau qui arrive, l'eau qui s'étale sur le désert. Cette eau continue à arriver. Et regardez tout à fait au-dessus, ça se voit mal parce que j'aurais pas dû mettre les deux mêmes couleurs. Ceci ici, eh bien, ce sont les diatomites. On va jusqu'au lac. Et quand vous faites des observations de terrain dans cette région du monde, eh bien, vous avez en ce moment sous les yeux la séquence de base. Désert. Transgression sur le désert et on a des grès qu'on a appelés périlacustres, puis on va jusqu'au lac. Alors, le lac, quand c'est le bassin de Chadia, ça faisait un grand lac. Le lac, le méga lac Tchad, eh bien, périodiquement, il faisait 400 000 km². 400 000 km². La grandeur de la mer Caspienne actuelle. À ce moment-là, se déposaient les diatomites. Et puis, assèchement, désert, et on recommence. Et vous retrouvez cycliquement cette unité. Période aride, période humide, période aride, période humide. À l'heure actuelle, nous sommes dans une période aride. Dans cette région du monde. Ce qui veut dire, très probablement, qu'elle va être suivie par une période humide. Le Sahara est un désert intermittent. Vous imaginez le moteur pour l'évolution de cette alternance aride-humide. Quand vous êtes mammifères, que vous soyez hominidés, singes, sangliers ou éléphants, quand vous êtes en période désertique, eh bien, il faut migrer ailleurs. Il faut aller chercher des zones plus favorables. Sûrement, très sûrement, que ceci a été un moteur important dans le fait que l'on trouve là des hominidés. Il y a eu là des changements climatiques à répétition qui ont fait que... Alors, il faut bien imaginer aussi ces changements climatiques sont producteurs de formes nouvelles. Parce qu'il faut bien que ces formes, ou elles disparaissent, ou elles s'adaptent. Mais il faut bien imaginer que le temps efface bon nombre d'entre elles et que quand vous allez sur le terrain, vous n'en retrouvez que quelques-unes. Parce que quand je vous disais à l'instant, vous avez là sous les yeux la séquence de base. Alors vous pourriez me dire, bah, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à faire un forage, vous le placez au bon endroit et vous mesurerez toutes les séquences de base, vous mesurerez le nombre de séquences de base et si vous datez la plus ancienne d'entre elles, vous pourrez, etc. Oui, mais, vous êtes dans la région du Sahara qui est la plus ventée. Vous êtes dans la région du Sahara où il y a le plus d'érosion. Quand vous imaginez que la partie nord du bassin tchadien, à l'heure actuelle, au point de vue altimétrique, est plus basse, elle est plus basse, elle est désertique, mais elle est plus basse que la partie sud où il y a le lac Tchad. C'est l'endroit du Sahara où il y a le plus de déflation. Quand vous imaginez que les sédiments qui sont là, dans cette dépression qu'on appelle, selon les cas, la dépression du Pays-Bas, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la dépression de Baudelaire, eh bien, ces poussières qui sont arrachées là, vous les retrouvez dans les sondages profonds qui sont faits, les carottages qui sont faits dans le golfe de Guinée. Ce n'est pas surprenant. Vous avez tous fait un jour ou l'autre cette remarque en découvrant un matin votre voiture ou celle de votre voisine ou voisin qui était couverte de poussière un peu rougeâtre. Et on vous a dit, quelqu'un vous a dit sûrement, « Ah, ça, ça vient du Sahara. » Eh bien, là, vous avez une érosion absolument énorme. Ce qui fait que c'est un coin particulièrement agréable à vivre. C'est là que nous travaillons. Et je vous assure que les tempêtes de sable, il faut avoir vécu pour savoir combien ça peut être agréable. On a d'autres méthodes d'approche dont je vous ai déjà parlé, dont mon collègue vous a parlé, qui sont les approches de biogéochimie isotopique, que l'on fait essentiellement, parce que c'est là que ça conserve mieux, sur l'émail dentaire. Et on travaille avec les isotopes stables du carbone, carbone 13, et de l'oxygène, oxygène 18. On peut avoir une assez bonne idée, voire une idée même assez précise, de ce qu'étaient à la fois les paléotempératures et de ce qu'était la diète de l'animal. Si vous savez ce que les animaux mangeaient, ça vous donne indirectement une assez bonne idée de ce qu'était l'environnement. Globalement, pour le carbone, vous avez deux types de photosynthèse, C3, C4. C4 sont les graminées, c'est la partie herbeuse, C3, c'est la partie arbustive. Je vous l'ai dit très simplement, ce sont des techniques un peu sophistiquées qui demandent d'être faites dans des laboratoires bien équipés. Parce que les écarts que vous cherchez sont relativement faibles et donc, mais vous pouvez avoir des résultats très fiables. Je vous ai déjà parlé de ça, ça va dans le même sens. Ça, la micro-usure dentaire, vous pouvez avoir une idée des derniers repas que l'animal a eus avant sa mort. toute cette diversité d'approches quand vous additionnez toutes ces données, la diversité au niveau spécifique, la diversité au niveau écologique, le nombre relatif de taxons d'une espèce à l'autre, des formes qui manquent, des formes qui sont à plus grand nombre, eh bien tout cela vous permet d'avoir une assez bonne idée de la structure de l'assemblage phonique. Et cette structure-là, vous pouvez la comparer avec des structures actuelles. Par exemple, quand vous regardez les bovidés, et les bovidés en Afrique sont un bel exemple, eh bien, vous avez des bovidés qui fréquentent des milieux plus humides, d'autres qui fréquentent des milieux boisés, d'autres qui fréquentent des milieux ouverts et plus secs. Et donc, vous avez tout loisir, après, de comparer. On est là tout à fait dans l'actualisme dont je vous parlais précédemment. Les problèmes d'abondance, vous avez plus ou moins d'une espèce ou d'une autre, sont significatifs de quelque chose. Vous pouvez avoir des zones qui soient plus boisées, vous pouvez avoir des zones qui sont plus ouvertes. Alors forcément, toutes les données n'ont pas la même qualité. Le principe de la fossilisation, vous avez mort, et si vous voulez une fossilisation parfaite, il faut qu'il y ait un enfouissement rapide. Pas d'enfouissement rapide, et vous avez une disparition qui est, elle, assez rapide. C'est frappant, par exemple, en milieu désertique, il est assez fréquent de trouver des dromadaires qui sont morts au bord d'un endroit où on passe, un dromadaire qui est là, à même le règne, en 2 ou 3 ans, il disparaît complètement. Complètement. S'il n'est pas enterré, il disparaît complètement. Très rapidement, les dents éclatent, les os éclatent. Il faut un enfouissement rapide. Pas d'enfouissement, pas de fossilisation. Si ces restes, ils demeurent là trop longtemps sur le sol, ils vont se disperser. Si après il y a enfouissement, ben ça va être dispersé et ça va être mélangé à d'autres. Ça arrive souvent. Alors les altérations sont de deux types. Vous avez des altérations qui sont dues aux bactéries et puis des altérations qui sont dues au climat, sont physico-chimiques. Tout ça fait que, généralement, la communauté que vous trouvez n'est pas une vraie communauté, c'est un assemblage de plusieurs choses. Souvent, surtout dans des conditions comme dans le bassin de Chadien, où vous avez de l'eau, vous avez des crues, et ce sont les crues qui rassemblent ces restes qui sont éparpillés. Et donc, ce qui vivait dans un certain milieu est mélangé avec ce qui vivait dans un autre milieu. Et souvent, c'est pour ça, vous aurez remarqué que à moins d'erreur, mais c'est une erreur de langage, on ne parle pas de la faune qui est associée à Toumaï, mais on parle de l'assemblage phonique associé à Toumaï. Assemblage phonique. C'est simplement pour cela. Il y a là sûrement un mélange de choses. Et c'est d'autant plus vrai que souvent les analyses de ces assemblages phoniques montrent fréquemment qu'on a affaire à des paysages mosaïques. Et pour cause, parce qu'on a rassemblé quelque chose qui venait des différentes parties. Alors, dans certains cas particuliers, vous avez une vraie faune qui s'est fossilisée. C'est le cas, par exemple, de ce qui a été publié en octobre dernier à Science par mes collègues et amis de l'Université de Berkeley et du Muséum national d'Éthiopie, Timoat et Berhane Achfo, pour Ardipithecus ramidus. Là, la faune, c'est un instantané de la faune qui a été fossilisée. Ils n'ont pas de mélange. C'est la faune qui vivait là et qui a été prise là. Mais c'est relativement rare. Alors, bien sûr, vous avez des problèmes d'échantillonnage. Vous imaginez bien, imaginez que cet après-midi, on décide tous ensemble, comme il fait beau aujourd'hui, d'aller pique-niquer sur le site de Toumaï. Vous imaginez, hein ? C'est joli, le désert. Et si je dis on va faire plusieurs groupes, les uns vont rester sur le site de Toumaï, les autres vont aller sur un autre site, s'il vous plaît, partagez-vous. Et quand j'aurai dit ça, tout le monde va rester sur le site de Toumaï et il n'y a personne qui voudra aller sur les autres sites. On est bien d'accord, je ne me trompe pas. Eh bien, c'est globalement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous avez trouvé un hominidé quelque part, ça entraîne des biais de récolte parce qu'on travaille plus à cet endroit qu'on travaille dans les autres. Alors il faut se méfier de ça aussi. Et c'est très très difficile quand vous avez une équipe d'extraire votre équipe de cette tendance pour des raisons évidentes et qu'on comprend aisément. Mais ça crée des biais de récolte. Ça crée des biais de récolte et donc des biais d'interprétation dont il faut se méfier. Et la question finale étant, effectivement, est-ce que l'assemblage que vous avez est bien représentatif ? Eh bien, souvent, la réponse est, les divers assemblages que vous avez ne représentent pas toujours la même chose, ne serait-ce que parce que les collectes ont été faites de manière différente. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais dans mon équipe, j'ai demandé à un moment qu'on essaie de calculer le nombre de jours, voire de semaines qu'on avait passé sur les sites où on a des hominidés par rapport à d'autres sites où on n'a pas d'hominidés et où on sait qu'on n'aura pas d'hominidés. C'est sans commune mesure. Et donc, par définition, il y a un biais de récolte énorme, quoi. Énorme. Enfin, il arrive un moment où vous avez toute une faune. Vous avez beaucoup de données, j'en ai oublié une. Toutes les données que je viens d'énumérer rapidement, elles peuvent être utilisées aussi, et on le fait, pour faire de la modélisation climatique. Thank you. Par exemple, avec mon équipe, on travaille avec le laboratoire des sciences du climat qui est sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire c'est l'université de Paris-Sud, mais c'est un centre CEA-CNRS. Alors pourquoi CEA ? Non pas parce qu'on fait, nous, des recherches ultra sophistiquées et sûres, mais simplement quand vous faites de la modélisation, vous avez besoin d'ordinateurs puissants et des temps de calcul, ça coûte cher. Et vous avez tous lu, ici ou là, que les chercheurs ne sont pas toujours des gens très riches, et que donc pour ce genre d'activité, avoir le CEA comme partenaire, c'est bien, ça aide bien. C'est une bonne collaboration. C'est d'autant mieux une bonne collaboration qu'on a des résultats très intéressants, on obtient des choses très intéressantes. Et pour vous dire, en ce qui concerne par exemple le Tchad, on a déjà fait une thèse de modélisation climatique sur cet environnement tchadien. Et une deuxième est en cours en ce moment. Donc, vous voyez, c'est un des aspects aussi importants. Tout ce que je viens de vous dire, là, et ça aussi, c'est important, extrêmement important, ça implique de multiples collaborations dans des domaines qui sont souvent très, très différents. Très, très différent. Et je crois que ça aussi, globalement alors, c'est une bonne image de la science avec un grand S. C'est-à-dire une image où vous n'avez point de salut si vous restez tout seul dans votre coin. Il faut faire des collaborations multiples. Il faut faire de la multidisciplinarité et essayer de comprendre notre histoire à nous, les humains. C'est quelque chose où il faut faire beaucoup de pluridisciplinarité. Beaucoup. Ça, c'est cette histoire de bassin dont je vous parlais ici, qui est cette zone-là, ici, où je tourne, où il y a ces points, c'est la zone la plus érodée du Sahara. C'est là. Si vous voulez vivre une tempête du désert, allez en vacances là. Vous en souviendrez. Ça souffle beaucoup. Le grand lac dont je vous parlais tout à l'heure, la bordure bleue ici, est la haute terrasse du dernier grand lac, il y a 5000 ans. Eh bien, ce contour que je viens de suivre là, ça fait 400 000 km carrés. 400 000. Pas mal. L'ensemble du bassin de Tchadien, c'est 2,5 millions de km carrés. C'est un grand bassin. Quand je vous parlais de paysage mosaïque, voilà ces paysages que l'on peut imaginer. Ceci est un paysage du delta de l'Okavango au Botswana. Je vous ai déjà parlé de l'Okavango qui transgresse, comme au Tchad, sur du sable, sur le désert. Là, c'est le désert du Kalahari. Je suis navré, mais ça fait peut-être pas sérieux, mais c'est comme ça pour le moment. Je ne sais pas encore avec précision où vivait Toumaï. Néanmoins, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai eu des échanges de mails qui me donnent un peu plus de précision, mais écoutez, je vous dirai peut-être l'année prochaine, mais pour le moment, ce n'est pas publié, alors. Mais il n'y aura pas de surprise majeure. Voilà ces paysages. Quand je vous montre ces paysages, ce sont, à mon sens, les paysages dans lesquels nous, la famille humaine, nous sommes nés. C'est-à-dire que si vous partez de la prairie herbeuse pour aller à la forêt, bien vous voyez, Toumaï, il est quelque part sûrement par là. Au moins l'assemblage phonique qui est, il est par là. Il n'est pas dans la forêt dense, mais il n'est pas dans la prairie herbeuse. Et pourtant, comme Ardipithecus ramidus, il est bipède. C'est-à-dire que, c'est clair maintenant, la bipédie, la savane, oui, mais la bipédie n'est pas née dans la savane. Ce n'est pas la savane qui a fait l'humain. Non. Non. Pour conclure, je voudrais réinsister à nouveau sur l'importance, quand vous faites de la paléontologie humaine, ça me frappe beaucoup, ça. Parce que, je n'ai pas le temps, bien sûr, mais si entre deux cours, j'allais dans le désert, et si je me prêtais à vos questions, la première question que vous me poseriez, j'ai l'habitude. Si vous me dites le contraire, je ne vous croirais pas. C'est, alors quand c'est des amis, ils disent, est-ce que tu en as trouvé? Et la traduction en bon français de cette question est, est-ce que tu as trouvé d'autres Toumaï? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu en as trouvé? Et ma réponse est, oh oui, bien sûr, beaucoup. Et la traduction en bon français de ce que je viens de dire, et oui, on a trouvé beaucoup de fossiles, mais ce n'est pas ce qui est attendu, entendu. Et on parle un peu et on dit, oui, on a trouvé plein d'autres fossiles. Mais oui, 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 mais ça, ce n'est pas important. Est-ce que tu as trouvé des hominidés? Alors, on dit, oui, on a trouvé une dent, on a trouvé... Ah, que ça? Que ça? Alors, je ne sais pas si je suis arrivé à vous convaincre. Mais il faut aller sur le terrain, ça c'est important. Pas de terrain? pas d'histoire. Il faut, bien sûr qu'il faut trouver des hominidés. Si vous n'avez pas d'hominidés, ben oui, vous n'allez pas raconter leur histoire. Mais ça fait un tout. L'assemblage phonique est aussi important que les hominidés. Et quand on va monter dans le temps, quand on va voir apparaître des formes préhumaines ou humaines plus dérivées, et je vais faire la transition là avec mes collègues, je ne sais pas s'ils sont dans la salle parce que je ne vois pas, mais au moins je vais essayer de mettre bien avec eux. Quand on va voir apparaître les outils, c'est-à-dire autour de 2,5 millions d'années, eh bien sûr, il faudra aussi utiliser cela. Donc, vous imaginez toute cette transdisciplinarité qui est utilisée pour essayer de comprendre ce quelque chose qui nous intéresse tous et que l'on appelle notre histoire. Merci.